Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Éthique. Tout de suite, une interview réalisée par Pascal Marcacci.
Qu'est-ce qu'un écocide ? Alors que la société civile se mobilise pour que ces crimes contre les écosystèmes soient juridiquement reconnus comme tels, en particulier par l'Europe, Étienne Klein, directeur de recherche au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, était invité par les JNE, les journalistes et écrivains pour la nature et l'environnement, dans le cadre d'une soirée exceptionnelle.
Je me méfie de cette démarche un peu analytique en disant il y a l'environnement, il y a ceci, etc. Alors que les problèmes sont complets. Et si vous prenez le grand quadrilatère énergie, climat, environnement, démographie, et vous faites des règles de trois, c'est-à-dire vous voyez si vos comportements sont universalisables, qu'est-ce qu'il y a comme ressources qui restent dans tel ou tel domaine, vous voyez que c'est une impasse. Et c'est pas en se concentrant sur un aspect qu'on va trouver une façon d'agir. Autrement dit, ce qui me gêne dans la démarche, outre le vocabulaire, c'est le fait que vous voulez, au nom d'une espèce de principe de précaution généralisée, juger des choix technologiques, non pas tellement à l'aune de ce qu'ils apportent, mais au motif qui pourrait occasionner des accidents, plus ou moins certains, qui provoqueraient des écocides. Alors vous parlez du nucléaire, moi je veux bien qu'on parle du nucléaire. C'est toujours l'exemple qui sort. Il faut quand même regarder ce qui se passerait si brutalement en France, il n'y avait plus de courant électrique. Qu'est-ce que ça provoquerait comme mort, comme personne qui serait en détresse énergétique, comme... Il faut regarder. Si on arrête le nucléaire, on peut le faire. Il y a deux choses. Premièrement, il faut recruter plein de gens dans le nucléaire. Puisque pour arrêter le nucléaire, il faut plus de gens compétents dans le nucléaire que si on continue. Deuxièmement, il faut trouver un moyen de faire rouler les trains provisoirement, d'éclairer les villes. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? C'est pas être pour ou contre le nucléaire, ça veut rien dire. Si vous êtes pour, soi-disant, vous devez dire ce que vous faites du parc, que vous faites des déchets, comment vous voyez le futur quand il n'y aura plus d'uranium 235. Si vous êtes contre, vous devez dire comment vous démantelez les centrales, que vous faites des déchets nucléaires et comment vous faites du courant. Vous allez faire du courant autrement, pas par l'éolien, ça marche pas, en proportion c'est que dalle. Pas par le solaire, c'est trop cher. Donc vous allez acheter du gaz ou du charbon. Vous savez combien il y a de gens qui meurent dans les mines de charbon dans le monde, chaque année? Bon, pourquoi ça fait jamais une ligne dans les journaux? Parce qu'il est normal que les mineurs meurent dans les mines. Ce qu'on n'aime pas dans le nucléaire, c'est qu'il peut tuer à distance. Il ne va pas tuer s'il tue que les travailleurs du nucléaire. Si c'est le cas, on s'en foutrait. Et pourquoi on est indifférent aux morts dans les mines? Pourquoi ça ne fait pas une ligne dans les journaux? Pourquoi le kilowattheure hydroélectrique est celui qui a le plus tué au XXe siècle? Beaucoup plus que tous les autres. On n'en parle jamais, on s'en fout. C'est des Chinois dans des vallées, on n'en parle même pas dans les journaux. Il suffirait qu'il y ait deux morts, ou un seul même, du nucléaire en France, mort directe, par radioactivité par exemple, pour qu'on arrête le nucléaire. Donc c'est ça que je veux dire, c'est que par exemple l'Allemagne arrête le nucléaire, ils rouvrent des mines de limite. C'est un charbon qui est radioactif, c'est le pire. Ils envoient des gamins de 18 ans qui font mineurs, voilà, en 2014 on peut devenir mineur en Allemagne. Alors comment vous allez comparer l'écocide pour votre au terme, que provoquerait le fait d'envoyer dans l'atmosphère tous les atomes de carbone de la croûte terrestre, ce qu'on devrait faire de toute façon. Vous êtes bien d'accord avec moi que tout charbon qui est dans la croûte terrestre va se retrouver dans l'atmosphère, c'est évident. Comment vous mesurez ce truc-là? Là, ça peut faire un effet de serre gigantesque auquel aucune population ne pourra s'adapter. Donc c'est ça qu'il faut comparer au nucléaire et à d'autres choses. Autrement dit, vous devez pas simplement regarder les probabilités d'accidents liés au fait que vous choisissez telle technologie. Vous devez aussi regarder les probabilités de désastres liées à l'abandon d'une technologie. Sinon, évidemment, vous avez un problème très simple et vous allez faire vos choix en fonction du halo symbolique, comme disait Gilbert Sombondon, associé à cette forme d'énergie, la réputation qu'elle a, l'image qu'elle a, etc., sans regarder parmi les autres énergies que peut-être vous trouvez sympathiques, les effets nocifs qu'elles peuvent avoir. Il n'y a pas d'énergie sympathique, ça n'existe pas. Toutes les énergies sont catastrophiques, toutes, même l'éolien, même le photovoltaïque. Le photovoltaïque, c'est hyper polluant. On ne sait pas recycler les matériaux utilisés. D'autre part, il y a des matériaux rares dedans, on ne pourra pas mettre des panneaux solaires partout. D'accord ? Il faut arrêter de se raconter des histoires à penser qu'il y a du renouvelable partout. Il n'y a pas de renouvelable. Du coup, il faut reprendre le problème à la base. Et quand vous dites, et moi j'ai discuté avec des Indiens Kayapos, évidemment je les ai trouvés très bien dans leur milieu, mais quand vous parlez de la juste place de l'homme, je ne sais pas ce que c'est moi, je ne sais pas ce que c'est. C'est combien de kilojoules par an, la juste place de l'homme ? C'est combien de voyages ? C'est quelle alimentation ? C'est quel habitat ? C'est quel chômage ?
Page.
Mais il n'y a pas que les multinationales. Les multinationales, c'est des abstractions qui servent de bouc émissaire. Elles existent. Mais on ne peut pas simplifier la situation à ce point. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas la démonstration du fait... J'ai regardé comment vivaient les Kayapos, ils m'ont raconté. Je n'ai pas la démonstration aujourd'hui du fait que 7 milliards de personnes pourraient vivre comme eux. Autrement dit, je ne suis pas sûr que notre environnement actuel puisse nourrir, comme se nourrissent les Kayapos aujourd'hui, 7 milliards de personnes. Autrement dit, il y a un problème ouvert. Nous dire qu'on doit vivre comme des Indiens pour sauver la planète, c'est même pas sûr que ça marche, parce que si on le fait, on risque de sacrifier l'humanité.
On va être sacrifié avant, hein, vous inquiétez pas, entre le changement climatique et les guerres géopolitiques de l'eau et les énergies, il y a une bonne partie de la planète qui
disparaît. Oui, mais moi je trouve que justement, le changement climatique est un truc gravissime, dont la gravité d'ailleurs s'accentue à mesure que les travaux progressent, et non plus considéré comme un risque qu'il faut combattre, mais comme une variation de la condition humaine à laquelle on doit s'adapter. C'est devenu une fatalité qui change les contours de la condition humaine et on devra s'adapter. Il y en a qui s'adapteront, d'autres pas, mais c'est plus un risque.
Et à votre avis, qui va s'adapter à part justement les populations qui arrivent à vivre de ce qu'ils ont autour d'eux?
C'est pas sûr, on ne sait pas qui va s'adapter.
Je vous pose la question.
Mais j'en sais rien, personne ne sait. Peut-être les Touaregs vont mieux s'adapter que les Indiens Kayapo, j'en sais rien. C'est vraiment très complexe ça. Et je pense que vouloir introduire la notion de crime a priori à partir d'estimations de probabilité va vous entraîner dans des querelles d'experts, mais alors pas possible, avec des effets de lobby pour le coup terribles, terribles.
Étienne Klein, avocat du diable, n'exagérons rien, à liberté d'expression libre, arbitre de chacun. Retenons en tous les cas que les écocides ne sont pas seulement les exactions de quelques-uns, l'intégralité en tous les cas de l'intervention d'Étienne Klein et de cette soirée exceptionnelle est à retrouver sur le site des JNE, jne-asso.org.
C'était un reportage réalisé par Pascal Marcaggi.